Merci au groupe Louange pour ce temps qui nous a permis de nous recentrer sur Dieu, de nous recentrer sur qui est le Seigneur de notre vie. J'invite Patrick Ray maintenant à me rejoindre. Donc Patrick Ray est pasteur à l'église des Beauvresses. Et je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose de vous encore ou les gens vous connaissent, hein, je pense déjà.
C'est pas moi l'important.
Exact. Bon, un peu quand même, ils aiment bien savoir à qui on a affaire.
Voilà, ben, je suis pasteur depuis 10 ans, voilà, dans l'église des Beauvresses.
Bien, je vais prier pour vous.
Volontiers.
Dieu notre Père, je t'apporte notre frère Patrick. Je te demande de le bénir particulièrement, de lui donner sur son cœur les paroles que tu as mises et qu'elles soient pour nous bénédiction. Seigneur, nous voulons vraiment nous attendre à toi. Sois avec notre frère, nous te le prions. Amen.
Amen. Merci. Voilà, bonjour. Alors, c'est sûr que c'était un peu défiant de venir apporter un message aujourd'hui. Que dire, que ne pas dire. Mais voilà, le but n'étant pas que de dire ce que j'ai envie de dire, mais ce que le Seigneur souhaiterait dire, j'espère m'en approcher. Si on peut lancer le... Merci. Voilà, je vais commencer par parler de l'amour. Dire, ah, voilà, nous les chrétiens, on a entendu ça 1000, 2000, 3000 fois. L'amour encore et toujours. Néanmoins, rapidement, rappelez que l'amour, c'est le fondement. C'est par là que ça commence. C'est pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on a été touché par l'amour de Dieu. Ce verset que même les plus petits connaissent, hein, c'est l'amour de Dieu qui l'a motivé à donner son Fils, à venir nous chercher. C'est lui qui nous a aimés le premier. Tout ça, vous le savez, c'est le fondement, c'est la base. L'amour, c'est aussi le but. Matthieu 22, hein, quel est le plus grand commandement ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même, de cela dépendent toute la loi et les prophètes. À cela sont attachés, suspendus, toute la loi et les prophètes. Ça résume tout. C'est le but. Le but du but, c'est ça, les amis. C'est l'amour. Mais plus encore, c'est le constituant. L'amour, c'est pas juste la cerise sur le gâteau. C'est le gâteau lui-même. 1 Corinthiens 13 nous rappelle que je peux avoir tous les dons les plus faramineux. C'est intéressant parce que ça suit juste 1 Corinthiens 12 qui parle justement des dons, les dons du Saint-Esprit, prophétie, miracle, tout ça. Wouhou ! Et ensuite Paul, qui sait qu'on peut parfois s'emballer pour les choses spectaculaires, nous rappelle que quand bien même je parlerai la langue des hommes et des anges, quand bien même j'aurai le don de prophétie, waouh, magnifique tout ça. S'il n'y a pas l'amour, ça ne vaut rien. Combien même j'aurai la science de tous les mystères, c'est pas rien ça. Donc ça veut dire doctorat en sciences, en chimie, en psychologie, en psychiatrie, en tout. Sans l'amour, ça ne vaut rien. Toute la connaissance, rien de moins que ça. La foi, oh, la foi jusqu'à déplacer les montagnes, c'est pas rien. Sans l'amour, ça ne vaut rien. Et je termine, la générosité, je pourrais distribuer tous mes biens et même mon corps si ça n'est pas motivé par l'amour, si ça n'est pas habité par l'amour, ça vaut rien. Tu vois, moi, ça me choque quand je lis ça. Ça me choque. Parce que ça vient quand même heurter... Ouais, en tout cas, moi, peut-être vous pas, mais moi, ça vient quand même heurter des choses de mon intelligence qui n'est pas encore tout à fait alignée avec celle de Dieu. Et... Si je dis ça, les amis, c'est aussi parce que, voilà, vous le savez peut-être ou pas, mais l'église des Beauvresses, l'année passée notamment, on a passé par des temps sérieusement difficiles. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, ce point de l'amour, parce que combien parfois on peut se chipoter sur des choses secondaires, hélas. Et je crois que Dieu nous dit, nous rappelle tout au long de sa parole que l'amour, je le rappelle, fondement, but constituant. Peut-être que j'ai des raisons très intelligentes de ne pas être d'accord avec vous. Peut-être même j'ai des raisons très intelligentes de, d'être froissé avec vous. Mais à aucun moment, Dieu ne me permet d'agir sans amour. Quand bien même mes raisons seraient spirituelles, je peux avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si l'amour n'y est pas, non. Quand bien même mes raisons seraient intelligentes, voilà, écoute, il faudrait faire les choses comme ça, c'est tellement intelligent de les faire comme ça et pas comme ça. Si je le fais sans amour, non. Donc, cette pierre de touche de l'amour, à aucun moment, je crois pouvoir dire, qu'à aucun moment, Dieu ne nous permet de nous traiter sans amour. Vous le savez, même jusqu'à nos ennemis. Voilà, même là, on n'a pas le droit de mettre l'amour de côté. Et moi, ce que j'ai remarqué parfois, c'est que là où on peut se perdre, c'est de croire que l'amour, ce serait le glaçage final sur le gâteau. Dire, ouais, bon, c'est bien, l'amour, c'est mieux, c'est un petit plus. C'est mieux si c'est dit ou fait avec amour. Ouais, c'est mieux, mais je dois te dire que là, c'est pas juste. Mais je dois te dire que là, vous me suivez? Alors qu'en fait, pas du tout, les amis. C'est pas juste le petit glaçage final, c'est pas la cerise sur le gâteau. C'est le fond du gâteau, c'est le corps du gâteau, c'est le sommet du gâteau, et c'est la cerise dessus. Rien de moins que ça. Alors, c'est pas que ça, mais néanmoins. Et je vous partage une autre chose qui m'a illuminé aussi dans ces temps de difficulté. Galates 5, 22. On connaît tous. Magnifique. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc., etc. Et je trouve intéressant de voir ça comme un critère aussi, parce que si je vous dis tout ça, les amis, c'est parce que dans ce que vous avez traversé, dont je ne connais que le 1%, et encore, est-ce que je sais, est-ce que c'est juste ou pas, mais peu importe, je pense qu'il est utile de pouvoir faire un peu le ménage déjà dans sa propre vie. Hein, on a à repasser les choses devant Dieu, puis se repentir, là où on a fait faux, là où on agit avec des faux motifs, oui, parce que la vie ne s'arrête pas ici et maintenant. Hein. Et donc ce critère de Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix. Si moi, je me surprends en train de parler à quelqu'un, ou de penser ou d'agir, et que l'amour, la joie, la paix ne sont pas là, qu'en est-il de la présence de l'esprit ? Si l'esprit est là, est-ce que l'amour, la joie et la paix peuvent ne pas être là ? Et donc, si quelqu'un vient me parler, même avec des motifs très intelligents, très construits, mais qui me parle et qui n'a pas l'amour, la joie et la paix, personnellement, je commencerai à me demander, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me motive ou qui motive cette personne ? Vous connaissez, si on prend l'archétype du religieux, voilà, ça sera quelqu'un qui est habillé en noir, alors excusez-moi, j'ai ma veste noire là, voilà, le religieux, on le caricaturera en noir, voilà, la joie n'est pas là, oui, frères et sœurs, l'heure est grave, voilà, je suis un religieux, puis ça donne l'impression de sainteté, hein, cette tristesse, cette lourdeur, voilà, il n'y a pas la joie. Il n'y aura pas l'amour, il n'y a pas la paix. Hein. Le religieux, l'archétype, il vient poser un jugement, il vient imposer. Vous me suivez ? Voilà, alors oubliez maintenant cette image, parce que ça fait plaisir à personne. À l'inverse, la personne habitée, propulsée, motivée par le Saint-Esprit, eh bien, il y aura l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi, la fidélité, etc. Vous me suivez ? Donc de voir le fruit de l'esprit, oui, comme quelque chose auquel j'aspire, que j'aspire à voir dans ma vie, ça commence par là. Mais je trouve intéressant de le voir aussi comme un critère, comme un symptôme, déjà dans ma propre vie, mais peut-être aussi quand quelqu'un vient face à moi. Voilà, pour moi, si quelqu'un vient s'adresser à moi et que je ne vois ni amour, ni joie, ni paix, oulala, j'ai une petite lumière rouge qui s'allume. Alors oui, Dieu m'appelle à aimer cette personne, hein, on veut pas, voilà. Mais quand même, je dis, oulala, est-ce que ces motivations sont vraiment, est-ce qu'elles viennent vraiment de la part de Dieu ? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et j'y repensais tout à l'heure, je me disais, j'oserais même dire que même Jésus, quand il s'est saisi d'un fouet dans le temple pour en chasser les marchands, je ne pense pas que c'était d'un manque de maîtrise de soi, je ne crois pas. Ce n'était pas un manque d'amour non plus. Alors là, on est dans un cas extrême. Jésus n'était pas comme ça normalement. Voilà, donc ça ne veut pas dire non plus être tout le temps doucereux. Ce n'est pas ça, non. Mais pour moi, de discerner, est-ce que ce qui se passe maintenant, est-ce que c'est un fruit de l'esprit? Est-ce que c'est un fruit de la chair? Est-ce que c'est un fruit de l'ennemi? C'est souvent ça qui est difficile quand on entre dans des temps de tension, de difficulté. Voire même après coup, hein, quand il faut défaire un peu les nœuds, puis dire, mais là, ce qui s'est passé, ou ce que moi j'ai fait, est-ce que je me suis laissé emporter dans quelque chose de charnel, voire pire, ou est-ce que c'est vraiment Dieu qui me motivait dans cet élan? J'en viens à un texte qui m'a un peu étonné quand je priais pour aujourd'hui. Et voilà. Un texte que là aussi tout le monde connaît bien, Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Voilà un verset, je pense qu'aussi que vous avez tous entendu et certainement cité de nombreuses fois. Mais en le creusant, j'ai découvert certaines choses dont j'aimerais vous faire part ce matin. Parce que des fois, on va l'utiliser, c'est un peu le verset... un peu le verset pommade, je dirais. Voilà, ouais, quoi qu'il arrive, ça ira, ouais, tout va bien. Allez, t'as des gros problèmes, pop, tout ira bien. Mais néanmoins, il y a notamment, pourtant ça fait 20 ans que je suis chrétien, mais je me disais, bon, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, bon d'accord, puis il y a cette suite-là de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Alors ça, c'est la... C'en est une traduction de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Moi, je passais un peu toujours là-dessus, voilà, rapidement. Ouais. Je me dis, qu'est-ce que ça fait là, hein? Il y a des fois des choses dans la Bible, on se dit, mais est-ce que c'est pas du rajouté? Mais non, certainement pas, chers amis. Aucun mot n'est de trop dans la Bible. Il vaut donc la peine de s'y pencher. Oui, Dieu fait concourir toutes choses. Mais néanmoins, il y a comme deux, moi je vois comme deux conditions ou critères là-dedans. La première étant de ceux qui l'aiment, de ceux qui aiment Dieu. Donc, ça c'est un des critères. Et le deuxième, il y a ce selon le plan, le dessein de Dieu. Donc, ce que moi je comprends, c'est que c'est pas que je fais n'importe quoi et puis que ça va concourir à mon bien. On est bien d'accord. Et il me semble qu'il y a ces deux critères qui sont posés. Donc ce que je fais, est-ce que je le fais en étant motivé par l'amour de Dieu? Ça ramène à mon premier point. Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui m'habite dans ce que je suis en train de faire maintenant? Voilà, ou est-ce que c'est l'amour de moi, de mon argent, de ma position, est-ce que je suis en train d'aimer des structures, ou est-ce que je suis en train d'aimer une façon de faire, ou voilà, etc. Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui me motive? Ça me ramène à mon premier point, voilà, avec ce critère. Et le deuxième, c'est selon le plan, le dessein de Dieu. Est-ce que je suis en train d'essayer de faire ma volonté? Ce que moi je veux, ce que moi j'aimerais, ce que moi je trouve bien, ce que moi je trouve intelligent, ce que moi je trouve sage, ce que je pense qu'on devrait faire, ce que je pense qu'on ne devrait pas faire? Ou est-ce que c'est le dessein de Dieu que je suis en train d'essayer d'accomplir? Ainsi donc, ce verset, il n'est pas si pommade que ça, chers frères et sœurs. Ce que j'en comprends, c'est que là où j'agis motivé par l'amour de Dieu et en cherchant sa volonté, là, oui, ça va concourir à mon bien. Là, oui, alléluia, là, c'est bon, là. Mais quand je fais des choses qui ne sont pas motivées par l'amour de Dieu, et ça, il y a 1823 raisons, ou quand ce n'est pas la volonté de Dieu que je suis en train de faire, ben là, ça ne va pas concourir à mon bien. Comment dire, si je sors d'ici et que je vais boire 3 bouteilles de whisky, Je ne pense pas que c'est motivé par l'amour de Dieu, je ne pense pas que c'est le plan de Dieu pour moi, ça ne va pas concourir à mon bien. Non, pas. Ne faites pas ça, les amis, ne faites pas ça. Vous me suivez ? Voilà. Après Dieu, dans sa bonté, oui, il va m'interpeller, il va envoyer un frère, deux frères, cinq frères, qui vont me dire, mais mon pauvre Patrick, que fais-tu avec ces bouteilles de whisky ? Me suivez-vous ? Donc, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est ces deux cadres, ces deux lignes directrices, qui sont d'une part l'amour de Dieu et d'autre part sa volonté. Et comme vous le savez, si on lit dans Jean 15, par exemple, on voit que les deux s'interpénètrent. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et en même temps, il est aussi dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Vous me suivez ? Les deux sont liés. De toute façon, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Je ne peux pas aimer Dieu et m'en ficher, non, on ne dit pas ça, je ne sais pas si c'est... Et n'avoir que faire de sa volonté. Merci, c'est plus poli. Mais je ne peux pas non plus faire la volonté de Dieu sans être dans son amour. Ça, c'est pas possible non plus. Les deux sont liés, les amis. Les deux s'interpénètrent. Et de nouveau, les deux sont comme deux critères aussi qui peuvent m'aider à savoir ce que je fais, ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça va faire concourir ? Est-ce que ça va amener le bien ? Est-ce que ça va amener la prospérité ? Donc je dirais, comment y voir clair, hein, de nouveau dans cette... Alors je ne sais pas comment vous êtes. Moi, suite à ces temps difficiles qu'on a connus au Beauvresse, ben, j'ai eu besoin de faire le tri, déjà dans ma vie, de me dire, mais Patrick, là, est-ce que là tu étais juste, pas juste ? Est-ce qu'il y a des... Certainement, hein, moi je suis de loin pas parfait, donc de pouvoir faire le ménage dans ma vie, puis après aussi dans ce qui s'est passé... Parce qu'il y a des fois, on peut ressortir de temps difficiles, c'était juste le tourbillon, on a juste la tête qui tourne et puis on ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc moi, ce qui m'a aidé à y voir clair, ben c'est déjà, suis-je, où ai-je été dans l'amour de Dieu ? Cette dimension de l'amour. Parce qu'on peut se prendre la tête sur des virgules théologiques, on peut se prendre la tête sur des systèmes ecclésiastiques, on peut entrer dans des discussions sans fin. Et il y a bien des domaines où même la Bible n'est pas si claire que ça. Si on parle notamment en termes d'organisation d'église, là, la Bible nous laisse une grande marge de manœuvre. Mais par contre, la question de l'amour, ça je crois que... Comment dire ? Je pense que si on se place devant Dieu, si on laisse décanter, je pense que ça, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat, on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études théologiques. Au final, on finit par savoir assez vite, est-ce que là j'ai été, est-ce que c'est par amour que j'ai dit ça ? Est-ce que c'est par amour que j'ai fait ceci ? Est-ce que c'est par amour que je me suis tu ? Peut-être que j'aurais dû parler, puis je me suis tu. Hein. Il y a le fait de ne pas faire quelque chose peut être aussi terrible que de faire quelque chose. Voilà, cette question de l'amour. La question, y aurait-il l'amour, la joie, la paix ? De nouveau, hein, ce fruit de l'esprit, est-ce qu'il était là ou pas ? Ou est-ce que je me suis laissé embarquer dans des discussions sans fin ? Est-ce que je cherchais à faire ma volonté ou la volonté de Dieu ? Alors ça peut être un petit peu plus délicat, mais néanmoins, hein, de ne pas se laisser embarquer dans des agendas personnels. Et certainement que si je me retrouve hors course sur un de ces points, alors il va être bon que je me repente devant Dieu déjà, et que, voilà, selon ce que Dieu me montrera, peut-être que j'aille demander pardon à tel ou tel autre, là où je me serais permis, où je me serais fait embarquer hors de ce chemin sur lequel Christ m'appelle. Et chers amis, je vous livre la petite perle finale. C'est que ce texte, il est dans Romains 8, 28. Tiens, 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 Romains 8. Vous le savez, Romains, c'est la cathédrale, on l'appelle la cathédrale de l'Évangile. Voilà, parce qu'il y a toute une construction et Romains 8, c'est la pointe. Hein, Romains 1, 2, 3, 4, 5, 6, et pouf, Romains 8, c'est l'explosion, c'est le feu, l'artifice. Et de quoi parle Romains 8 ? Il y a... Dans Romains 8, le Saint-Esprit est cité 22 fois. je l'ai trouvé 28 fois dans l'Épître aux Romains, et dans Romains 8, il est 22 fois. Même en 1 Corinthiens 12, qui est pourtant un des grands chapitres sur le Saint-Esprit, sur les dons du Saint-Esprit, ne cite que 12 fois le mot esprit, 22 fois dans Romains 8. Est-ce que c'est un hasard si ce fameux verset qu'on cite souvent, il se trouve dans Romains 8 ? Certes non, les amis, car comment être dans l'amour de Dieu ? Je ne dis pas l'amour de Patrick, je ne vous souhaite pas juste l'amour de Patrick, il est petit, sec, court, vite usé. L'amour de Dieu, comment faire pour être dans l'amour de Dieu ? Le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit me permet d'être dans l'amour de Dieu, et à plus forte raison quand ça devient difficile. De nouveau, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est le Saint-Esprit qui produit ceci en nous. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et comment discerner et accomplir la volonté de Dieu ? Le Saint-Esprit. Je lis dans Romains 8, le verset 7. L'homme livré à lui-même, l'homme charnel, l'homme sans le Saint-Esprit, donc même le meilleur des chrétiens, diplôme de théologie, tout ce que vous voulez, sans le Saint-Esprit, il s'appelle l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il pense, n'est que haine de Dieu. Aïe. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, il ne se soumet pas à la volonté de Dieu, car il ne le peut même pas, il ne le peut pas. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas faire la volonté de Dieu, ce n'est pas possible. Donc être un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Et je ne suis pas en train de vous vendre de l'ultra-charismatisme, les amis. La question, elle n'est pas là. Ce n'est pas la hauteur à laquelle je lève mes bras ou que je danse sur ma chaise. Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde, les amis. Après, comment on l'exprime, ça sera différent. Voilà. Mais en attendant, sans le Saint-Esprit, j'oublie. Je ne peux même pas être chrétien. Mieux vaut arrêter. Enfin non, ne faites pas ça. N'arrêtez pas. Non. Demandez-lui, et vous le savez. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, quand votre enfant vous demande un pain, un poisson, vous lui donnez pas une pierre, un scorpion, ainsi donc votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à tous ceux qui le demandent. Mais encore faut-il que j'y aspire. Si je me leurre moi-même en me disant, oui, bon, bah, moi, quand même, je suis quand même un gentil garçon, donc moi, ça va. Puis quand même, moi, j'ai fait de la théologie, je peux discerner la volonté de Dieu, et je peux aimer les gens, je suis gentil, moi, j'ai tué personne. Tintin, les amis. Sans le Saint-Esprit, je ne vais pas pouvoir aimer aucun d'entre vous comme Dieu me le demande, et je ne pourrai pas faire la volonté de Dieu comme il le demande, et donc je ne pourrai pas accomplir Romains 8, 28, et donc les choses ne vont pas concourir à mon bien, non. Elles vont concourir au mal de mon vieil homme, ce qui dans le fond est un bien. Voilà, je vais finir triste et effondré, et peut-être qu'enfin je vais tomber sur les genoux et dire « Seigneur Saint-Esprit, aie pitié de moi ». Parce que je me rends compte que sans toi, malgré tous mes efforts, j'ai essayé d'être gentil, j'ai essayé de faire ta volonté, mais j'y arrive pas. Ça n'est donc pas un hasard si Romains 8, 28 est dans Romains 8, le chapitre. Je n'ai pas vérifié dans toute la Bible. Je ne sais pas, intéressant. Si quelqu'un pourra me dire s'il trouve un autre chapitre de la Bible dans lequel le Saint-Esprit est cité plus de fois que dans Romains 8. Et c'est justement là qu'on trouve ce verset qu'on aime citer tellement de fois. Toute chose concourt au bien, certes. Mais pour ça, on a besoin d'être habité, conduit par le Saint-Esprit lui-même. Je vous dis ça, les amis, je ne vous fais pas la leçon. Hein. Je ne vous fais pas la leçon. J'entends, ma propre vie, mon propre ministère n'est pas une suite de succès. Donc, je ne vous fais pas la leçon. Ça me fait moi-même premièrement beaucoup de bien de vous prêcher ça, ce besoin fondamental, absolu, de Dieu en moi, du Saint-Esprit. J'aimerais prier peut-être à ce stade-là, ben justement pour que le Saint-Esprit nous visite. Seigneur Saint-Esprit, il est écrit que tu es le consolateur. Je prie, Seigneur Saint-Esprit, que tu viennes visiter chacun, chacune ici. On associe aussi ceux qui ne sont pas là ce matin, ceux qui sont partis, pour diverses raisons, Seigneur. Et je demande ta consolation, Seigneur. Ta consolation, voilà, là où on a pu se blesser les uns les autres hein, en tant que frères et sœurs, là où c'est l'ennemi lui-même qui est venu en rajouter ou faire du mal. Seigneur Saint-Esprit, on a besoin de toi pour ça. Ta consolation, je prie. Ta guérison, Seigneur, pour les paroles blessantes, les attitudes blessantes, ou ce qu'on a ressenti comme tel. Dans le nom de Jésus, je prie. Que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et tu peux en faire autant, Seigneur, dans les vies. Je prie que l'ennemi n'ait pas le dernier mot. C'est pour ça que tu as donné ta vie à la croix, Jésus. Même là où certains se sentent comme morts, ont peut-être, voilà, ont besoin de ta vie dans leur élan envers ta parole, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans le fait de fréquenter une communauté. Seigneur, viens, Saint-Esprit, je prie, amener ta vie de résurrection ce matin. Tu es celui qui atteste que nous sommes fils et filles de Dieu. C'est dit aussi dans Romains 8. Et tu es celui qui nous rappelle que nous sommes aimés profondément, absolument, certainement par le Père. Et donc que cet amour, nous y avons accès. Si on se sent sec ce matin ou vide, on peut venir puiser à la source. Tu es aussi celui qui fait grandir l'amour de Dieu en nous. Et c'est ce que je prie, Seigneur, au milieu de nous. Plus de ton amour, Seigneur, pour ceux que nous croisons, pour ceux que tu mets sur notre route, pour les amis, pour les perdus, aussi pour les ennemis, pour ceux qui nous feraient du mal. Seigneur, viens faire grandir cet amour, je prie. Et tu es celui qui nous rend capable de discerner, d'accomplir la volonté de Dieu, Seigneur Saint-Esprit. Alors je prie pour cette œuvre au milieu de nous ce matin. Et merci parce que tu es l'esprit de la résurrection, Saint-Esprit. Et c'est ce que je prie ce matin pour Priscille, pour Nicolas, pour leur famille. On veut invoquer, proclamer la puissance de la résurrection. Je veux planter la croix de Christ dans leur vie, dans leur appel, aussi dans cette église, dans cette communauté, dans la vie de chacun. Seigneur, c'est ta croix que nous plantons. Et tout comme ces disciples qui étaient désemparés pendant ces 3 jours pendant lesquels ils ne t'ont plus vu, Jésus. Eh bien, nous voulons nous attendre à toi, Jésus. Parce que même la mort ne peut pas te retenir, Jésus. Même les pires plans de l'ennemi ne peuvent pas stopper tes desseins, Seigneur. Et je prie, Seigneur Saint-Esprit, toi, tu es aussi celui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Eh bien, que tu nous montres, voilà, là où on a péché contre quelqu'un, d'aller demander pardon, de nous repentir. Montre-nous, éclaire nos vies, Seigneur, dans ta bonté. Je prie que là où l'ennemi a cherché à semer la confusion, le brouillard, on sait aussi que nos émotions sont prises, c'est difficile d'y voir clair. Et je prie, Saint-Esprit, pour cette clarté. Et pas parce que tu veux condamner, bien au contraire, tu veux libérer, tu veux alléger, tu veux habiter pleinement par ta vie. Alors Seigneur, je prie pour chacun, chacune, là où l'ennemi aurait pu avoir une part, eh ben de le montrer clairement afin que chacun puisse s'en défaire, afin d'être habité pleinement par toi. Et Seigneur, nous voulons dire ce matin que nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Nous voulons aimer notre prochain comme toi tu nous as aimé, Jésus. Et Seigneur Saint-Esprit, nous demandons ton aide ce matin, nous demandons ton secours. Selon qu'il est écrit que si nous te demandons, Père, l'Esprit, tu le donnes avec générosité. Pardon, Seigneur, là où nous avons mis notre intelligence en premier, notre sagesse en premier, nos habitudes, nos structures, notre historique. Nous confessons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Alors nous plions le genou, Seigneur, devant toi. Nous plions le genou, nous reconnaissons que c'est toi qui es seul Seigneur, seul Maître, et qu'on a tellement besoin de toi, Saint-Esprit, pour nous guider, nous conduire. Sans toi, nous sommes perdus. Alors merci pour ta grâce, Seigneur, selon qu'il est écrit que si nous confessons nos péchés, nous pouvons compter sur la bonté et la fidélité de Dieu, afin que nous puissions être pardonnés et purifiés. C'est ce que je veux proclamer, Seigneur, aujourd'hui sur chacun, chacune ici, que nous pouvons compter sur la bonté et la fidélité de Dieu. Pas sur nous, pas sur notre capacité à comprendre, à nous relever, nos forces, notre intelligence, mais sur la bonté et la fidélité de Dieu. Merci Père pour ta bonté, ta fidélité, parce que tu aimes, tu te plais à faire miséricorde, comme il est écrit. Tu te plais à faire miséricorde. Alors Seigneur, merci de ta grâce qui est déjà en route pour cette communauté, pour Nicolas, pour Priscille. Et que dans ta grâce, il y a non seulement le pardon, la purification, mais il y a aussi la force, il y a les moyens. Ton esprit, Seigneur, qui permet de relever, de reconstruire, de redonner vie là où tout nous semblait sans espoir. Tu es capable de faire ça, Seigneur. C'est ce que je veux proclamer sur cette assemblée aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.